vous écoutez bien le Rocking Chair. Mais puisqu'on vous dit que tout va bien, très chers auditeurs et très chères auditrices du Rocking Chair, bienvenue sur Radio Grand Paris, bienvenue dans l'heure hebdomadaire du Rocking Chair, et oui, il est un peu plus de 21h, et je vous dis donc, tout va bien, oui, la culture n'est pas en danger, non, la preuve, un certain Michel Sardou a reçu des mains de notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, la Légion d'honneur. Quand on vous dit que tout va bien, c'est que tout va bien. N'allez pas chercher midi à 14h un éventuel sujet de polémique. Ou alors, restez décérébrés devant CNews. Mais bon, c'est un autre choix de vie. Ce que nous proposons ce soir, eh bien c'est en réaction à cette déclaration qui nous a à la fois irrités et fait pouffer de rire, une programmation 100% française avec, en insert au milieu, la troisième rubrique de la pinte et la plume de mon ami Sophie Rageau. Et on démarre par le grand, le gigantissime, le commandant de bord, le génial, celui dont on n'a pas fêté l'anniversaire de la disparition, tant ses chansons sont encore extrêmement présentes dans nos vies et dans nos cœurs, Monsieur Alain Bachung.
À l'arrière des berlines, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux livrés à eux. Ils font des petits, ils font des ennuyeux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de ce néant à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez le soulier, usez l'usurier. Soyez ma muse. Et qu'elle est dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et qu'elle est dure. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, osez. Osez, osez. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
Mini session de rattrapage temps. On aurait pu consacrer une émission entière à rendre hommage pour l'anniversaire de la disparition de Monsieur Alain Bachung. Et il y a toujours ce Osez Joséphine, bravache, morceau rock'n'roll ici, le clip de Jean-Baptiste Mondino où on voit Alain Bachung habillé en Elvis, pas caricatural, avec sa magnifique guitare et une jeune fille derrière lui qui joue aussi de la guitare. Bien sûr, les chansons restent Brest et Bachung reste un monument. Alors cette semaine, il y a une sortie qu'on attendait, que j'attendais et que je vous ai fait attendre avec le plus grand des enthousiasmes et avec la plus grande des impatiences. Voilà, je cherche mes mots, j'en bafouille de plaisir et d'émotion. Il est enfin arrivé, il est dans les bacs de vos disquaires, il est sur les plateformes de streaming, mais acheter des disques, ne serait-ce qu'acheter des disques des groupes français, ça leur permettra de réenregistrer derrière. Ce sont maintenant les trios Clermontois, parisiens de Mustang, oui, Memento Mori est enfin paru, et franchement, il ne nous déçoit pas. Un album dense et intègre à l'image de ce premier extrait qui ouvre l'album, si je ne dis pas de bêtises, titre de la chanson, très chers auditeurs et très chères auditrices, c'est le titre Loyal et Honnêteté.
début de l'aventure Mustang, Jean Fézine, le chanteur, guitariste et compositeur, n'avait que 21 ans. Et avec ce quatrième album qui s'est fait attendre, puisque Écran Total était paru il y a maintenant 7 ans, on voit la maturité toujours qui s'installe dans sa vie d'homme. Et ce titre montre vraiment sa lucidité, mais toujours son désir d'intégrité, parce que c'est quelque chose qui est relativement marquant dans ce groupe. Les chansons de Fézine sont pour moi comme des petits poinçons, malicieux mais implacablement lucide sur les dérives et les turpitudes d'un système global, mais aussi sur nous, individus, en paradoxe, bien au chaud dans nos petites chapelles et nos certitudes. Fézine sait y mettre les formes, mais il ne perd jamais de son mordant. Et c'est vraiment la marque du talent et de la singularité de ce groupe. Un groupe difficilement classable, on les appelle d'ailleurs très souvent les inclassables, tant la valse des références est large et qu'il serait impossible de mettre des étiquettes. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont cette qualité de pop dans la musique, dans les arrangements, dans les textes, et donc cette lucidité couplée avec une certaine forme d'humour peut donner des chansons comme Fils de Machin, une chanson qui dénonce le système de cooptation culturelle qui est totalement généralisé dans la culture française, et on se l'écoute tout de suite. Oui, vous l'avez compris, Memento Mori, c'est la sortie à ne pas rater, même si le titre veut dire « N'oublie pas que tu vas mourir ». C'est comme ça. voilà, tout est dit, fils de machin, tu m'excites. Comme quoi, il y a à la fois de la répulsion et une certaine forme de fascination. Alors, il est important d'acheter cet album, je vous l'avais déjà dit, puisque la vente des 500 CD et des 500 vinyles que le groupe a pressé et a préparé et a envoyé, moi j'ai reçu mon album le jour de la sortie, était dans ma boîte aux lettres, il m'a été envoyé par Johan Gentile, le bassiste, et je l'en remercie. C'est très important parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire et ils ont des chansons en réserve. Il n'y a qu'à se pencher pour écrire des chansons, dit Jean Felsine. Elles poussent même dans les arbres depuis le début de la pandémie. Ce n'est pas parce que le système économique lié à la musique, particulièrement le spectacle vivant, s'effondre qu'il ne faut plus créer. Si un jour on doit enregistrer sur un haut-parleur de smartphone, on le fera. Bon. J'espère qu'ils n'en arriveront pas là. Il faut savoir que Jean Felsine va sortir cette année son premier album solo, qu'il y aura aussi le deuxième album de son duo avec Joe Wedin. Et nous avons encore un extrait à vous proposer de cet album que nous aimons beaucoup, dense, à la fois hédoniste, mais bien acide, avec le titre Dissident, qui n'est pas prêt de passer sur les radios généralistes, tant le texte, s'il est pris au premier degré, comment dire, pourrait donner du l'urticaire à certains bien-pensants. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la bien-pensance, j'ai pas l'impression que ce soit une vertu négative, mais là, franchement, écoutez bien le texte. Moi, personnellement, la première fois que je l'ai écouté, j'ai été interloqué. La deuxième fois, je me suis fendu la poire, et c'est maintenant la même chose à chaque fois. Mustang, Dissident.
Tu ne sais pas encore. Je t'aime fort, mais je ne vois plus. Ne sais plus qui tu es, face à toi je suis perdu. Toi que je pensais connaître si bien, je t'en prie, reviens. Oui, je veux te protéger, crois-moi. Je t'aime fort. J'aimerais te prendre dans mes bras, bien dans mes bras. Je t'aime fort, mais je ne sais plus. Ne vois plus qui tu es, face à toi je suis perdu. Toi que je pensais connaître si bien, je t'en mais moi aussi chérie Laura, je t'ai ressemblé à ton âge. Pris 100 fois les corbeaux pour des cygnes, vu les étoiles au fond de l'abîme. Comment te défaire de ces bijoux de fer, je t'en prie, dis-moi. Où as-tu ma main? Je t'aime fort et je veux te protéger, crois-moi, de ce que tu ne vois pas, ce que tu ne sais.
Il est très facile de préparer une playlist 100% française tant quand plusieurs albums de très haute qualité se succèdent les uns après les autres. Après la sortie cette semaine de Memento Mori, l'album des Mustangs, il y a eu la semaine précédente l'excellente sortie de l'album Palais d'Argile des Feu Chatterton de Arthur Teboul. Un petit coup de gueule au passage hein, sur l'émission Quotidien qui préfère laisser déblatérer la botoxée Sheila plutôt que de laisser un groupe jouer l'intégralité de son morceau, parce que je suis à moitié sûr, mais je me suis quand même bien rendu compte que la chanson Un Monde Nouveau avait été légèrement amputée. Mais donc, élevons-nous. Laissons place désormais à la littérature, aux mots, à l'élévation. Oui, Akar vient, est venu, et voilà le temps de la pinte et la plume. Elle est prête, elle est élégante, elle est classe. C'est notre chroniqueuse. Installez-vous confortablement, moi je l'écoute et je ne fais que faire rebondir son illustre pensée. La pinte et la plume. Eh oui, déjà, mes très chers auditeurs et mes très chères auditrices, le troisième rendez-vous, si je ne m'abuse, avec notre remarquable critique, chroniqueuse littéraire. Bonsoir, ma Sophie, comment vas-tu ?
Bonsoir, Emmanuel.
Oui. Tout va bien.
Avec ce son de piano qui nous invite à ouvrir un bouquin.
Oui, d'ailleurs, on va l'arrêter. Hop. Et on va, voilà, c'est là, les bouquins, ce sera pour... Enfin, on va en parler, on lira plus tard. Alors, vers quelle contrée, après nous avoir emmenés vers des personnages incroyables, comme je te disais en antenne, je suis en train de lire Gonzo Highway de Hunter S. Thompson, où vas-tu nous emmener ce mois-ci ?
Alors, un peu d'histoire aujourd'hui, chère Manu, chères auditrices et chers auditeurs. Et comme j'avais envie d'ailleurs et d'échapper à nos quotidiens sous couvre-feu, semi-confiné ou totalement confiné, alors il faut rayer la mention inutile selon votre région, je vous propose d'aborder ensemble trois épisodes fascinants de l'histoire américaine.
Ah, très bien.
Alors, tranquillisez-vous, l'idée n'est pas de vous refourguer des biographies et des pavés indigestes, hein.
Oui.
Non, j'ai trouvé plus intéressant de vous parler de trois ouvrages
oui.
qui vous plongeront directement, la tête la première, dans une bouillonnante et troublante Amérique. Alors, que ce soit par le roman, le récit ou l'enquête, vous ne sortirez pas indemne de ces lectures.
Ah bah c'est bien ça.
Voilà, c'est déjà pas mal.
Ah ouais, super.
Qui donnent à réfléchir, à s'émouvoir bien sûr, à se révolter peut-être, et à se perdre sûrement. Et on a envie de se perdre. C'est donc parti pour ma sélection subjective, mais toujours passionnée. Et comme nous avons toutes et tous besoin de nous détendre et de nous évader, il
oui.
sera question de meurtre en série, d'émeutes et d'un foutu virus. Voilà, mais je vous promets que ce sera sympa.
Ah, ce sera... Mais c'est... Ah, c'est... il est sympa ce virus, la Covid, hein. Il est sympa.
Là, on va en parler d'un autre. Mais...
Très bien. Nous sommes tout oui.
Donc le premier ouvrage proposé est un délicat texte autobiographique écrit par Alicia Abbott, journaliste et autrice américaine. Donc le titre Fairyland, Royaume enchanté en français,
oui.
évoque la ville de San Francisco où se déroule l'histoire mais aussi l'enfance d'Alicia. Alors ce merveilleux monde à l'envers dans lequel elle a vécu avec son père, Steve Abbott, un écrivain et militant homosexuel.
D'accord.
Donc leur tandem déménage à San Francisco en 1974 après la mort de la mère de l'autrice, qui a alors 2 ans. Et ce choix n'est pas anodin puisque la ville, en pleine effervescence, est le lieu de la contestation et de la contre-culture.
Mm-hmm.
Steve rejoint la scène littéraire de l'époque et la communauté gay qui se bat alors pour ses droits. Et alors, dès les premières pages, la paire qu'ils constituaient est au centre du récit. Leurs deux points de vue sont accolés, puisqu'Alicia insère des écrits de son père. Une sorte de ping-pong, en fait, qui se
D'accord.
joue. On découvre leur proximité affectueuse et indéfectible, pardon, sur fond de bohème. Ils survivent dans une atmosphère fantaisiste, faite de lectures poétiques en librairie, de soirées autour d'un joint et de colocations avec des personnages tous les plus excentriques et givrés. Et la gamine est aimée, entourée, heureuse, en dépit des difficultés ressenties. Il lui faut en effet assumer l'homosexualité de son père et son mode de vie plus que marginal. Et bientôt, la maladie de Steve. Car à San Francisco, il fait très vite un sale temps pour les gays.
Ouais,
en
sida.
Fait, en 78, Harvey Milk, le premier conseiller oui. municipal ouvertement mm-hmm. homosexuel, est assassiné.
Oui.
Et voilà, le foutu virus, le sida ronge la ville. En fait, autour de Steve et Alicia, c'est l'hécatombe. Les amis, tous jeunes, beaux et talentueux, succombent. Et Alicia stoppera ses études et s'occupera de son père jusqu'à sa mort en 92.
D'accord, donc il est mort des suites du sida.
Tout à fait,
D'accord.
tout à fait.
Ok.
Et en fait, pendant cette période, il n'y a aucun pathos et aucun des deux n'a le beau rôle. La fille est soulagée de le voir partir en soins palliatifs et le père ne l'épargne d'aucun détail sur sa lente agonie. Tout ceci est très... Il n'y a pas d'idéal, quoi. C'est le tendre portrait que fait Alicia Abbott de son père.
Okay.
Et l'autrice est portée par son amour profond, mais aussi perturbée par les maladresses et l'inconséquence de celui-ci.
Ah ben,
je vous fais part d'un extrait qui
oui.
est absolument magnifique sur son père.
Accrochez-vous.
La vérité est que je ne voulais pas être un poème de mon père. Je voulais être son dessin, l'une de ses nouvelles, son œuvre d'art la plus raffinée. Je voulais qu'il relise et corrige mes erreurs et mes nombreux défauts avec un stylo rouge ou une gomme bien propre. Malheureusement, en tant qu'auteur de sa fille, il allait souvent trop vite. Il était trop approximatif, bien souvent, il ne faisait qu'improviser sur la page. Il n'avait pas le temps, il était fatigué, il était seul, il était empêtré dans ses propres drames, ses propres histoires amoureuses qui échouaient, les difficultés qu'il rencontrait dans sa carrière pour gérer cette adolescente déjà chargée.
Elle a quel âge quand elle écrit ça ?
Là, c'est un livre qui a été écrit quand elle était adulte, hein. Donc, elle, c'est bien, bien des années après. Mais c'est absolument magnifique, hein. C'est une envolée dans ce San Francisco que je vous conseille vivement.
Et très bien.
On voit qu'il n'était pas facile d'être un père célibataire et gay dans les années 70. Hein. Et c'est Fairyland est une magnifique histoire de ces êtres et de leur lutte face à une administration Reagan qui était totalement indifférente à l'époque. Hein.
Ah bah oui, ça je suis pas surpris. Oui, carrément.
Voilà, donc ça voilà, on a le fond historique qui est très très intéressant.
D'accord.
Donc ce Fairyland, c'est disponible en poche et c'est chez 10-18.
Très bien, parfait. Deuxième livre.
Remontons au début du siècle à présent avec cette enquête magistrale du reporter du New Yorker David Graham. Mm-hmm. La Note américaine, parue en 2018, exhume une histoire refoulée de l'inconscient collectif américain. On est en 1921.
Je connais ce livre de nom, La Note américaine. Voilà.
Ça
me dit quelque chose.
Je pense que ça va te donner envie.
Oui.
Notre ami Rémi l'a lu aussi et a beaucoup aimé.
Ah, d'accord. Très bien.
Donc, en 1921, les guerres indiennes sont terminées. Les Blancs ont gagné et les Indiens se retrouvent parqués dans des réserves où ils végètent vraiment comme des misérables. Une exception à ça, c'est le peuple Osage. On leur a attribué un territoire minéral en Oklahoma. Grave erreur, puisqu'ils recèlent le plus grand gisement de pétrole des États-Unis. Et les Osages deviennent millionnaires. Ah. Ils roulent en voiture de luxe, ont des domestiques blancs, c'est le monde à l'envers.
Génial.
Et spoiler alerte, tout ceci va mal finir.
Oui.
Un jour, deux membres de la tribu disparaissent, balle dans la tête, empoisonnement, maison qui explose, les cadavres s'amoncellent par dizaines.
Oh.
L'enquête de David Graham se focalise sur Molly et ses sœurs Osage qui sont richissimes et mariées à des Blancs.
D'accord.
Et l'ironie de l'histoire se retourne contre elle puisque Molly sera la seule survivante de sa famille.
Uh-huh.
Alors, qui commet ces assassinats ?
Uh-huh. Le colonel Boutard dans la grange.
Nullement. En fait, Graham dresse le portrait d'une Amérique encore ancrée dans une mentalité Far West, où régnait un culte de l'assassinat. Alors, appât du gain, corruption des pouvoirs, racisme profond à l'égard des Amérindiens, sont au programme. La justice est incompétente, au pire, elle est complice. C'est terrifiant et sordide. Mais, parce qu'il y a un mais, Graham montre aussi une Amérique changeante où on assiste à la naissance du FBI, qui est fondé et mené par un jeune Edgar Hoover, pressé de faire ses preuves et ne servant que son propre intérêt.
Ouais.
Alors, ce système révolutionnaire d'investigation permet d'apporter un semblant de justice. Des procès ont lieu, même si la partie est loin d'être gagnée, comme le montre cet extrait. Est-ce qu'un jury composé de 12 hommes blancs pourrait condamner un autre blanc pour avoir tué des Indiens ? Un journaliste sceptique nota. L'attitude des colons éleveurs de bétail envers les Indiens non métissés est bien connue. Un éminent membre de la tribu dit les choses encore plus franchement. Je me demande si ce jury considère qu'il s'agit bien ici de meurtre, non de maltraitance sur des animaux. Voilà, autant vous dire qu'il va y avoir de la relaxe dans l'air.
Ouais.
Malheureusement. La Note américaine dépasse la simple enquête puisque le livre est riche en portraits forts. Et alors, il y a l'enquêteur pugnace Tom White et il y a Molly Burkhart dont j'ai parlé, l'Indienne, la seule rescapée. Et qui est l'amie pour tous, c'est ce qui sera écrit sur sa tombe. Et rien que pour ces deux-là, il faut vous procurer ce livre paru en poche chez Pocket.
Très bien.
Et j'ajoute une chose, il y a Scorsese qui préparait un film là-dessus.
Ah bah oui, ça j'imagine. Alors, c'est l'heure de la petite incise musicale. Et alors,
incisons.
nous allons inciser. Et alors là, par rapport à ces deux premiers choix très intéressants, mais qui amènent quelque chose d'assez pesant, hein. N'ayons pas peur de le dire, quand même, on est loin du conte de fées, on est très loin de Fairyland. Une sucrerie, une kitscherie pop made in France, découverte dans un film il y a peu. Alors je pense que certains auditeurs et auditrices du Rocking Chair pourraient nous en couler une bielle, mais toi, je pense que tu devrais aimer. Écoutons ça de ce pas. Alors là, c'est un pur saut en arrière, en 1982, avec ce titre qui s'appelle Movie, le groupe s'appelait Movie Music, et le titre de la chanson, c'est Star de la pub. Alors, qu'est-ce que tu en penses ?
Moi, j'ai envie de décoller en avion sur les Champs-Élysées.
Ah ouais, ça c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, cette chanson-là, eh bien, je l'ai découverte dans la bande originale du film Été 85 de Ozon. C'est-à-dire que tu ne l'as pas encore vu ?
Non, eh ben, malheureusement
moment,
pas. Oui.
À un moment, les deux jeunes Adonis se rendent en boîte de nuit et ils dansent sur cette chanson. Et en fait, on l'entend pas vraiment, mais je me suis dit, j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans cette chanson. Et moi, le refrain, dans cette période actuelle où on est reconfiné, où c'est très dur moralement pour tout le monde, hein, faut pas se cacher, faut pas se le cacher. j'ai l'impression vraiment, moi, de décoller sur les Champs-Élysées, quoi. Donc, c'est... Donc, voilà, c'est vrai que... c'est... on ne peut plus en décalage avec les ouvrages que tu nous proposes ce soir, et...
Mais nous sommes un tandem.
Mais nous sommes un tandem. Voilà, définitivement, nous sommes les Mel Gibson et Danny Glover de la de Radio Grand Paris. Je te laisse faire Mel Gibson, je fais Danny Glover. Voilà.
D'accord.
Ok. Ok. La meulette ira très bien. La meulette ira très bien. Alors, troisième ouvrage, ma chère amie.
Alors, le dernier titre est un roman paru en 2018. Il s'agit de Graffiti Palace, qui est un voyage démentiel écrit par A.G. Lombardo. Alors, A.G., hein, je prends l'accent français. Hein.
Oui.
C'est un enseignant californien dont on ne sait pas grand-chose, sinon rien. Et alors, ce n'est pas grave, car je vous souhaite, comme pour moi, de vivre une expérience marquante avec ce premier roman à l'écriture prodigieuse. Alors, l'histoire se situe à Los Angeles en 1965, pendant les émeutes du quartier de Watts.
Ouais.
Curieusement, cette révolte de la population noire, déclenchée après une interpellation policière particulièrement musclée, n'a pas spécialement inspiré les écrivains américains.
Ah bon ?
Pourtant, Los Angeles s'embrase durant 6 jours d'émeute, 34 morts, des milliers de blessés, 35 millions de dégâts, et un couvre-feu est instauré. Elles sont particulièrement violentes et marquées par le slogan « Burn, baby burn ».
Ouais.
Donc, Lombardo s'empare de cet épisode sanglant de l'histoire américaine et place son héros au cœur de la fournaise. Alors le héros, c'est un homme, Américo Monk, pardon. Il cherche à rentrer chez lui auprès de sa bien-aimée, enceinte et inquiète, mais il se retrouve pris au piège des rues embrasées.
D'accord.
Alors, tel un Ulysse des temps modernes à la coupe afro, il croise une foule de personnages homériques. Alors, il y a des gourous religieux, des caïds mexicains, des dealers d'opium à Chinatown, des sorcières vaudoues qui font penser à des sirènes, un énigmatique vieil aveugle qui fait penser à un cyclope. Ils sont tous mystérieux, parfois bénéfiques ou maléfiques. En fait, c'est l'Odyssée revisitée à la sauce Gangsta's Paradise.
Jolie formule. Voilà. Très belle formule.
L'écriture très imagée, est foisonnante et souvent déroutante. C'est vrai qu'on se perd et c'est formidable. Hein. Mais ça peut être déroutant.
Ouais.
Et le personnage d'Américo Monk consigne, ça c'est extraordinaire, il consigne dans un carnet tous les tags et les graffitis sur le béton. Alors avec minutie et rigueur, il trace peu à peu une cartographie de la scène underground. Mais dans quel but ? Alors pour comprendre, voici un extrait. Une cabine téléphonique aux vitres brisées et aux relents d'urine. Fuck bitches en cursive dégoulinante sur un mur en plâtre. Parfois Monk a envie d'effacer, de masquer ses griffonnages ataviques de division et de haine, mais c'est impossible. Il ne peut que les cataloguer, s'efforcer d'entrevoir les constellations infinies de ses repères urbains ou risquer de se perdre, de se noyer dans le bruit aveuglant des glyphes non déchiffrés. La ville change constamment, se défait de sa peau de symboles et langages occultes lorsque de paroxysme de destruction et de renaissance, bouillonne d'une guerre secrète opposant les dépossédés qui écrivent les histoires de ces rues et les structures de pouvoir et de police qui étouffent les communications illicites à grand renfort d'équipes anti-graffiti, d'incarcération, d'intimidation. Il sera leur historien. Voilà, en fait, on comprend alors l'importance de cette langue des opprimés.
Mmh.
Et en fait, le personnage de Monk est un porteur de mémoire et d'une voix. Celle des émeutiers.
D'accord.
Et en fait, l'auteur, Lombardo, c'est extraordinaire parce qu'il mêle le merveilleux et la dure réalité sociale.
Ouais.
Et c'est ce qui fait de Graffiti Palace une œuvre vraiment singulière et envoûtante.
D'accord. Et
je ne peux que vous envier de la découvrir.
Ouais.
Et c'est en édition poche et c'est aux éditions 10-18.
Parfait.
Voilà.
Parfait, ma Sophie. Eh bien, voilà encore, mes très chers auditeurs et très chères auditrices, trois belles routes qui s'offrent à vous, trois chemins de lecture. Et nous sommes déjà, et je suis déjà, très impatient de te retrouver le mois prochain pour, encore une fois, développer cette carte virtuelle et imaginaire littéraire que tu nous proposes avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de classe aussi, et une érudition juste ce qu'il faut. Donc,
voilà.
Ne changez rien, madame. Ne changez rien. C'était très bien. Et je t'avoue que les deux derniers, là, ils vont aller sur ma liste de bouquins à acheter. Mais bon, de toute façon, c'est plus une pile. J'ai l'impression d'avoir une tour de piste de bouquins. Non. Enfin, c'est n'importe quoi. Et cela ne regarde absolument pas nos auditeurs. Ma très chère Sophie, je t'embrasse. À dans un mois.
À dans un mois.
Bisous.
Bisous.
Très chers auditeurs, nous, on enchaîne avec la femme.
traîne sur ce sentier louché, sinueux. Tu viens de loin, tu m'as cherché quelque part et tu t'es égaré. Puis tu as croisé mon chemin et tu te demandes, que va-t-il t'arriver maintenant, alors écoute. Je suce le sang de mon prochain. Je sème la mort et la tempête. Je suis la vengeance et la haine. Et je vais là où le vent m'emmène. Je cherche le cœur de mon amant pour y planter mes dents. Tu peux me voir dans le noir. Et peut-être que ce soir je t'emporte dans une autre vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie. Je sais que j'ai tort de te faire faire ce sacrifice. Rejoins-moi dans les abysses, tu deviendras mon complice. Car je suis le sang. Elle a choisi la mort, toujours, entre la vie et la mort.
Ces deux titres que l'on n'attendait plus du groupe de Autour de Lucie de Valérie Leliot nous donnent véritablement envie d'en avoir plus et d'avoir, j'espère, un album pour cette année 2021. Et donc juste avant La Femme, Le Sang de mon prochain, le nouvel extrait, je crois qu'ils doivent être en 4, 5, peut-être 6 singles avant la sortie de l'album. L'album sera dans les bacs de vos disquaires le 2 avril prochain. Ce sera d'ailleurs un Friday, Bandcamp Day, vous m'avez compris, le jour où si vous achetez l'album sur Bandcamp, l'argent va directement dans les poches de l'artiste. Donc voilà, maintenant j'achète des disques uniquement ce jour-là, comme ça l'argent va directement vers ces gens, ces femmes qui font cette musique pas comme les autres, que vous avez toujours le plaisir d'écouter tous les dimanches à 21h sur les ondes de Radio Grand Paris dans l'émission Rock Chair, menée d'une main de maître par votre serviteur. Et à la une des arts occultés de cette semaine, justement La Femme, avec le titre La Femme fout le bordel dans la pop française. Ce sera encore une fois un album qui sera attendu, qui est attendu avec une grande impatience. Et je sais que mon camarade Rémi, toujours au volant de sa Dodge à travers les États-Unis et son remarquable podcast Auto Reverse, est sur le coup et ne manquera pas de prendre du plaisir à découvrir cet album, comme vous le ferez sûrement en écoutant les prochains épisodes du Rockin' Chair. Ça, c'est de la relecture qui transcende l'original. Vous aurez bien sûr reconnu le branchouille dandy, oui, Sébastien Tellier, l'amour et la violence, extrait de l'album et la Simple Mind version. Alors, cette émission 100% française, avec en plus la remarquable chronique La pinte et la plume de moi très chère amie Sophie, elle a été en réaction à la politique du gouvernement et le fait que, en plein marasme, notre chère Roselyne Covidée a décidé, notre ministre de la Culture a décidé de trouver rien d'autre mieux à faire que de décorer l'ex-chanteur de droite, puisqu'il ne chante plus, mais il doit toujours être de droite et réac et profondément connard invétéré, Michel Sardou. Et ben moi je pense à tous les lieux d'occupation et de résistance, hein. Ça a commencé à Paris par le théâtre de l'Odéon, et j'ai devant moi une petite carte avec des petits points jaunes comme des soleils de tous ces endroits où les intermittents du spectacle, les techniciens du spectacle ont décidé de prendre les lieux entre guillemets pas en otage, parce que le terme est extrêmement grave, mais de les prendre comme symbole et de s'en emparer, tels les révolutionnaires s'étaient emparés de la Bastille. Donc il y a des tas de lieux, il y a le Chanel du côté de Calais, le théâtre Sébastopol de Lille, le cirque Jules Verne du côté d'Amiens, le théâtre des Deux-Rives à Rouen, la Comédie de Caen, l'Opéra de Rennes, la Passerelle du côté de Saint-Brieuc, le Carré Magique à Lannion, le théâtre de Lorient, le théâtre national de Strasbourg, la Maison de la Culture de Grenoble, ce qui me permet de saluer la tendre et amicale famille Iron du côté de Grenoble, le théâtre national de Nice, la Comédie scène nationale de Clermont-Ferrand, Paloma, la scène de musique actuelle qui accueillait le This Is Not a Love Song Festival, Petit Papa Noël situé aux cieux ou n'importe qui, faites que le This Is Not a Love Song Festival revienne en 2022, la salle du Fil du côté de Saint-Etienne ou la Tanière du côté de Bourg-en-Bresse, voilà tous ces endroits, je n'en ai cité qu'une partie, où les gens se sont regroupés et on tienne des agora, des endroits où on peut échanger, une façon symbolique, certes limitée, de garder ces lieux culturels ouverts. Vous écoutiez bien Radio Grand Paris, vous étiez bien à l'écoute du Rockin' Chair tous les dimanches à 21h en direct, mais aussi disponible sur Rockin' Chair, le podcast grâce au bon soin de Monsieur Super Résistant, disponible aussi sur Spotify. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission où, ne vous inquiétez pas, le tatapoum rugissant reviendra vous désensabler les cages à miel. D'ici là, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. N'oubliez pas notre credo, soyez curieux, c'est un ordre. Je vous embrasse et je vous aime et je vous laisse avec Olivier Jean et April Marche, petite voyoute. Salut les petits cadaillous, à dimanche. Yeah.